Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité dont le slogan proclamait « Avec mes cheveux, je fais ce que je veux ». Est-ce qu'on pourrait remplacer « cheveux » par « poils » ? Est-ce qu'avec mes poils, je peux faire ce que je veux ? Entre ce qu'il faut faire disparaître pour entrer dans un supposé canon de la beauté féminine et ce qu'il faudrait laisser pousser, mais pas trop, pour avoir prétendument l'air viril. On s'intéresse aux poils aujourd'hui dans Grand Bien vous fasse. À quoi servent-ils ? Est-ce qu'on peut vraiment s'en passer et partout ? En avoir ou pas ? Est-ce que l'épilation renvoie à la domination masculine ? Est-ce que c'est le diktat de la police ? En deux mots, évidemment, on se posera toutes ces questions ce matin avec vous aussi, 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous laisser des notes vocales ou nous écrire sur l'appli de France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Thomas.
Médecin et chroniqueur de Grand Bien vous fasse, un poil barbu. De quoi est-ce que vous allez nous parler ce matin ?
On va parler médecine, corps des femmes et Disneyland. Oui, tout ça, tout ça.
Tout ça, ce sera à peu près vers 10h30, tout ça, tout ça. Allez, c'est lundi, c'est férié, on reprend du poil de la bête. Grand Bien vous fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau, Grand Bien vous fasse.
Avec trois invités aujourd'hui. Bonjour Milena Younes-Linhart.
Bonjour.
Vous êtes doctorante, intervenante au laboratoire d'études de genre et de sexualité, c'est à Paris 8. Bonjour Isabelle Gallet.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue et vice-présidente du syndicat national des dermatologues. Et Bertrand Lançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez publié il y a quelque temps « Poils et pouvoir » d'Auguste à Charlemagne, c'est aux éditions Arquet. Un livre dans lequel vous nous dites que le poil n'est ni anodin ni innocent, je vous cite, hein, déjà à l'époque qui vous intéresse, c'est-à-dire l'Antiquité jusqu'à peu près le début du Moyen-Âge, hein, le poil pour vous, Bertrand Lançon, a une signification politique.
Oui, j'ai essayé de montrer en quoi, depuis l'Antiquité, la pilosité avait un pouvoir de représentation de l'autorité, et donc qu'il avait une signification anthropologique, certes, mais également politique.
Alors, quel type de signification politique ?
Bien, chez les anciens, le poil représentait la barbarité, et l'aspect animal de l'être humain, et donc il se trouve que la domestication du poil et représente une sorte d'échelle de civilisation. Chez les Grecs, par exemple, les Grecs pratiquaient l'épilation, ce pourquoi les Romains les raillaient, et les Romains, eux, se laissaient pousser la barbe ou les cheveux lorsqu'ils étaient en deuil. Et ensuite, eh bien, la barbe a été très très signifiante, que ce soit pour désigner le philosophe ou l'empereur. Mmh,
la petite barbe du philosophe. Milena Younes-Linhart, quelle serait la signification politique du poil aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il semble que l'épilation, les pratiques dépilatoires fonctionnent vraiment comme un outil social pour socialiser notamment les femmes au genre et à la sexualité. C'est-à-dire que ça fonctionne, enfin, il a un rôle social aujourd'hui dans le fonctionnement, dans le système genre. Et on s'en rend compte parce que on voit de manière très pratique que c'est une pratique quasi obligatoire pour les femmes aujourd'hui dans notre société, alors que ce n'est pas le cas pour les hommes. Et donc c'est intéressant de se poser la question en sociologie de comment ça se fait, comment fonctionne la norme sociale pour que pratiquement toutes les femmes s'épilent. Et donc c'est pour ça que moi j'ai fait des enquêtes pour essayer de voir comment l'intériorisation fonctionne. Parce que c'est une pratique qui est extrêmement douloureuse, qui est très chronophage, qui prend beaucoup de temps aux femmes.
Qui est cher aussi.
Extrêmement cher, ouais. Comment ça se fait qu'alors que cette pratique est si douloureuse et si compliquée, les femmes la mettent autant en place ?
On y reviendra parce que, naturellement, vous allez vous appuyer sur les enquêtes que vous avez menées, où vous avez recueilli la parole de nombreuses femmes. Mais quel chemin parcouru depuis ces premiers rasoirs qu'on trouvait à l'Antiquité, et donc plutôt destinés aux hommes, Bertrand Lançon vient de nous le rappeler, à ces outils ultra perfectionnés qu'on utilise aujourd'hui, comme les lasers et les lumières pulsées. Isabelle Gallet, vous qui êtes dermatologue, quels sont les outils aujourd'hui mis à disposition pour les femmes et les hommes qui décident de se séparer de leurs poils ?
Oui, alors tout à fait, effectivement, ce sont les femmes et les hommes également, hein, puisqu'on voit beaucoup, on voit de plus en plus d'hommes qui demandent des épilations. Ces outils très performants que sont les lasers et certaines lampes pulsées sont maintenant très répandus chez les médecins, particulièrement chez les dermatologues aussi, puisque nous avons mis en place ces lasers d'épilation dans notre outillage, entre guillemets. Notre outillage médical, bien sûr, mais aussi outillage de bien-être. C'est-à-dire que on s'adapte effectivement aux demandes des patients, des patientes initialement, qui ne supportaient plus de faire des épilations régulières à la cire. Quand on a du poil aux jambes, c'est très disgracieux dans notre société. Donc le laser a été d'un apport extraordinaire pour ces zones, mais bien sûr pour le visage aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'épilaient et qui faisaient des épilations électriques qui étaient très chronophages, qui prenaient beaucoup de temps. Le laser a apporté vraiment beaucoup de bien-être.
On va en reparler évidemment tout au long de l'émission. Isabelle Gallet, je vais vous demander peut-être de trouver un autre endroit, parce que vous êtes dans un lieu manifestement très très bruyant et on entend quasiment autant l'ambiance qu'il y a derrière vous que vos propos, ce qui est un peu gênant. Si vous pouvez essayer de trouver un endroit relativement plus calme, ce serait sympa, merci. On l'a dit, hein, Milena Younes-Linard, donc de plus en plus d'outils pour une épilation que vous considérez comme une forme de domination masculine.
Ce qui est intéressant, c'est de voir son rôle social justement dans le fonctionnement de la domination. Et donc quand on analyse la manière dont la société fait pour que les jeunes filles intériorisent cette norme, on se rend compte qu'en effet, ça participe d'un contrôle de la sexualité, notamment des jeunes filles, parce que quand on fait des enquêtes, on se rend compte que les pères, PAIRS, la famille autour, formulent des injonctions aux petites filles dès le jeune âge pour qu'elle s'épile. Mais justement, il y a un peu un contrôle de la sexualité, c'est-à-dire qu'avant 13-14 ans, il ne faut pas que les jeunes filles en France s'épilent, parce que ça voudrait dire qu'elles rentreraient trop tôt dans la sexualité et qu'elles ne se seraient pas donc des filles avec une bonne féminité comme il le faudrait. Mais par contre, à partir de 13-14 ans, on voit dans les entretiens que les jeunes filles subissent des injonctions, et notamment de la part de leur mère, de la part de leur tante et de leur cousine, pour qu'elles s'épilent. Donc on voit que ça fonctionne vraiment comme un contrôle de la sexualité. Avant un certain âge, il ne faut pas avoir de rapport sexuel, et donc il faut pas s'épiler, parce qu'en fait on se rend compte, puisque ça se passe comme ça, ça veut dire que vraiment l'injonction à l'épilation, etc., ça participe à la construction de corps qui vont pouvoir être les bons corps pour rentrer dans l'hétérosexualité. C'est-à-dire que s'il y a autant d'injonctions pour les jeunes filles à s'épiler, c'est pour avoir un corps désirable pour les hommes, et donc avoir un corps conforme au système hétéronormatif dans lequel on vit. Donc c'est vraiment pour la construction de corps genrés. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est intéressant par rapport à ce que vient de dire la dermatologue qu'on vient d'entendre,
Isabelle Gallet. Mais on peut aussi, Milena, être homosexuel et aimer les polices.
Totalement.
Parce que vous parlez de la construction d'un corps.
Ouais, totalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que il y a une intériorisation des goûts et du dégoût. C'est-à-dire que on pense souvent, et c'est souvent comme ça, hein, que ça se passe, c'est qu'on dit telle pratique sociale, elle est naturelle, et c'est pour justifier en fait souvent des systèmes de domination et des injonctions de genre très très fortes. Et donc on dit, et d'ailleurs c'est pour ça que tout le monde trouve ça dégoûtant et tout le monde trouve ça vraiment dégueulasse d'avoir des poils. Mais en fait, ce dont on se rend compte dans les enquêtes, c'est que ce sentiment de dégoût, il est aussi construit socialement, et il est aussi lié à toutes les moqueries que les jeunes filles ont eues. Donc évidemment, que ce soit des jeunes femmes hétéro ou des jeunes femmes lesbiennes, elles peuvent trouver ça beau ou moche. Mais par contre, même si il y a des femmes qui deviennent lesbiennes dès leur adolescence, elles ont quand même vécu les injonctions pour avoir un bon corps qui va rentrer justement dans l'hétérosexualité, avoir le bon corps qui va plaire aux hommes.
Alors, enjeu politique, les poils ont aussi une utilité pour le corps humain. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'une émission de vulgarisation scientifique très connue qui s'appelle C'est pas sorcier, et qui se pose cette question. À quoi sert le poil ?
Figurez-vous que côté poil, nous n'avons rien à envier aux singes. Et oui, nous en avons autant que les filles comme les garçons. On dirait pas, hein ? C'est parce que les nôtres sont beaucoup plus fins, à peine visibles. Chez les mammifères, les poils servent d'isolant thermique. Mais chez nous, évidemment, cette protection n'est plus très efficace. Par contre, notre système pileux a d'autres fonctions. Les poils du nez et des oreilles stoppent les microbes. Et oui, les sourcils et les cils protègent les yeux des poussières. Et curieusement, nous sommes les seuls mammifères à avoir des cheveux. On ne sait pas vraiment quelle est leur fonction d'ailleurs. C'est peut-être un vestige des crinières animales qui nous protégeraient du soleil.
À quoi sert le poil, s'interroger l'émission C'est pas sorcier. Isabelle Gallet, je vous pose en retour la question. Vous êtes dermatologue. À quoi sert le poil pour le corps humain?
Alors, ce qui a été énuméré, là, les zones qui sur lesquelles cette personne a insisté, bien sûr, sont évidemment protégées par leurs poils. Les poils du
corps sont des zones d'ailleurs auxquelles on touche assez peu. On enlève rarement ses cils.
Bah, évidemment.
On les prolonge tout du moins, mais on les enlève
bien
pas.
Bien sûr, évidemment. Les
mais sous les bras, les jambes, puisque ce sont ces zones-là qu'on épile, sur le pubis.
Pour revenir aux poils très disgracieux dans notre société actuelle, il n'y a pas jusqu'alors de personnes qui sont venues se plaindre d'être gênées par l'absence de poils. Au niveau des aisselles, avec certains lasers, il peut même y avoir une diminution de la sudation, ce qui peut être intéressant pour les jeunes personnes qui ont une sudation très importante, parce qu'il y a effectivement une baisse du pool de glandes sébacées, c'est-à-dire que la peau sera moins grasse et les glandes sudorales également seront moins importantes, donc la sueur sera moins intense.
Mais est-ce que ça permet pas également une meilleure hydratation de la peau?
Alors oui, effectivement, ce que l'on note, c'est que la peau est un petit peu plus sèche après une épilation laser. On recommande de l'hydrater, mais au cours du temps, les autres glandes sébacées, parce qu'on va pas détruire bien sûr tout l'appareil pilo-sébacé, on détruit le poil. Hein, le laser va vraiment cibler le pigment du poil. Il va chauffer effectivement le bulbe du poil pour le détruire. Et on sait que le poil est appendu à la glande sébacée. Donc, certaines glandes sébacées vont effectivement être, on va dire, un peu touchées par le laser. Donc, la production sébacée sera effectivement moindre après une séance de laser.
Et vous avez recours de plus en plus fréquemment à ce qu'on appelle donc cette épilation définitive que vous venez d'évoquer? Est-ce que vous avez de plus en plus de patientes et patients qui vous le demandent?
Tout à fait. Particulièrement dans la population jeune, on va dire les 18-25 ans, la demande est de plus en plus importante. L'épilation intégrale, puisque vous souhaitiez en parler, est quelque chose qui est énormément prôné peut-être par la société actuellement, hein, pour diverses raisons, et demandé particulièrement par les jeunes femmes, et également les femmes après 40 ans. Il y a également des raisons religieuses aussi, hein, vous le savez. Pas que et on parle pas que de la politique concernant le poil, il y a aussi la religion. Et les demandes sont vraiment de plus en plus importantes.
Bertrand Lançon, ce diktat donc de la police, hein, comme on vient de le dire en deux mots, concernait plutôt les hommes sous l'Antiquité, absolument pas les femmes.
C'était une mode chez les Grecs. Que les Romains raillaient d'ailleurs comme étant du domaine de l'amollissement, alors que les Romains, eux, se glorifiaient d'être des porteurs de poils, de barbes, et gardaient des poils sur la poitrine.
Donc synonyme de ce qu'on pourrait appeler une forme de virilité, en quelque sorte.
Une forme de virilité qui est quelque part associée à une animalité domestiquée, en quelque sorte. Et cette animalité, cette perception animale du poil, on la sent de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, puisque ce qui vient d'être dit à propos du diktat de l'épilation est une injonction auprès des femmes, mais aussi des hommes qui veulent plaire aux femmes. Et d'autre part, ce qui me semble avoir changé très récemment, surtout dans les 10 dernières années, c'est le rapport à l'animalité, justement. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui beaucoup du bien-être animal, et l'animalité n'est plus cette étrangeté qu'il fallait repousser. Et donc il y a aussi une vague de retour du poil et de non-épilation, parce qu'il faut pas oublier non plus que l'épilation est un marché, et un marché très juteux du point de vue du matériel.
On l'a dit, en effet, une séance d'épilation coûte relativement cher, surtout quand il faut tout faire. On s'intéresse au poil aujourd'hui dans Grand Bien vous fasse. Est-ce qu'on va dans le sens du poil, ou plutôt, quels sont les sens des poils? Ce sont les questions qu'on se pose. Et n'hésitez pas à intervenir 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter.
Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, hymne féministe de 1966.
France Inter.
Attends, il y a deux poils là-dedans, des grands poils.
Grand Bien vous fasse.
Ah, il me tire les poils. Il me tire les poils.
Thomas Chauvineau.
Trois invités pour parler des poils ce matin. La vice-présidente du syndicat national des dermatologues, Isabelle Gallet, Bertrand Lançon, qui est historien, et Milena Younes-Linhart, qui est doctorante et qui travaille sur cette question de genre et de sexualité. Et puis Emmanuel d'Exeter, en Grande-Bretagne, nous a laissé cette note vocale.
Moi, sur les poils, en fait, ça m'énerve parce que ça fait mal. En général, j'utilise un épilateur. Et il faut refaire souvent, donc ça prend du temps, ça fait mal. Et puis... ouais, voilà, faut le faire souvent, donc ça me gave un peu, honnêtement.
Milena Younes-Linhart, on l'a dit, ça fait mal, c'est cher. Pourtant, une récente étude le redisait, 87% des femmes déclarent pratiquer régulièrement l'épilation. L'épilation, c'est devenu presque aussi courant, aussi banal que le brossage des dents.
Ouais, tout à fait, c'est ça que qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment une force de la norme, parce que ça a un rôle social important. Et donc, on se rend compte que, même si aujourd'hui, comme les autres invités disaient tout à l'heure, il y a un petit peu des choses qui changent. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément lié à un rapport à l'animalité, le fait que on voit sur Internet que certaines femmes montrent leurs poils, etc. Je pense que c'est lié au mouvement MeToo qui a eu lieu il y a peu de temps et qui a permis, en fait, en repensant les violences et en mettant en avant les questions de et en proposant une vraie critique sociale des violences sexuelles et sexistes, a permis de repenser d'un point de vue un peu médiatique le rôle justement des pratiques corporelles dans le fonctionnement de l'hétérosexualité qui produit et en montrant que l'hétérosexualité produit des violences. Et donc c'est pour ça que ça permet en fait de déconstruire toutes ces pratiques de corps et de se dire pour certaines femmes en fait ces pratiques là qui me font souffrir, mais en fait c'est pas seulement la question de la d'une souffrance physique, c'est aussi un sentiment, et c'est ce que me disent les enquêtés et c'est lié au rapport, au rôle social de l'épilation dans les rapports de genre, au sentiment d'avoir une pratique qui, en fait, fait se sentir dominée, en fait. Et notamment, c'est dans les entretiens, on se rend compte que dans les rapports intimes hétérosexuels, les hommes formulent des injonctions à leur petite copine pour qu'elle s'épile. Et s'épiler ou pas, quand on est une jeune femme et qu'on reçoit ce genre d'injonction, c'est aussi un travail. C'est-à-dire que ce qu'on analyse en socio et qui est très important, c'est qu'il y a une norme, il y a des structures sociales qui pèsent sur les individus, mais les personnes les retravaillent en permanence. Et donc les femmes, oui, s'épilent parce qu'elles ont intériorisé cette norme-là et que ça a produit du dégoût chez elles de leur propre poil. Mais en fait, elles le retravaillent tout le temps et elles se posent sur la question de est-ce que je le fais ou pas ? Et notamment, c'est aussi pour ça que moi, j'ai aussi des enquêtés qui m'ont dit que après avoir fait une épilation laser, en fait, elle regrettait un peu d'avoir fait cette épilation laser.
Donc épilation définitive.
Ouais, une épilation définitive. Elle regrettait d'avoir fait cette épilation là parce qu'en fait, ça posait leur corps comme un corps lisse et donc qui était conforme au désir masculin et donc conforme au fonctionnement de l'hétérosexualité. Et elle, alors qu'elle voulait sortir de l'hétérosexualité ou même en restant dans l'hétérosexualité, elle voulait pas être conforme au désir masculin parce que sa charrie aussi tout un continuum de violence, etc. Elle voulait sortir de ça et donc elle regrettait et elle voyait ça comme une absence de...
Isabelle Gallet, vous qui êtes dermatologue et qui donc pratiquez ces épilations laser, est-ce que vous mettez en garde vos patientes ?
Alors tout à fait, effectivement, quand j'ai mes patientes en consultation et qu'elles me demandent une épilation intégrale, je leur dis que l'épilation intégrale, bien sûr, nous médecins, nous utilisons des machines performantes. Hein, ce sont d'ailleurs des machines qui coûtent très cher.
Quand vous dites intégrale, ça veut bien dire l'épilation du pubis. Hein.
Du maillot, voilà, du maillot intégral. Je mets en garde les patientes en leur disant, vous savez, c'est une épilation définitive. Vous n'aurez plus de poils. Donc peut-être que c'est votre désir du moment, c'est le vôtre. Alors en général, c'est vraiment le leur. Hein. Ce sont des jeunes femmes qui s'assument, qui demandent précisément. C'est pour elles. Comme quand une femme vient demander de rajeunir sa peau, c'est pour elle avant tout. Donc oui, je veux bien qu'il y a peut-être un problème d'injonction quelquefois. Quand on discute avec les patientes, on le sent quelquefois. Mais c'est avant tout quand même pour la personne qui le demande.
Baptiste Beaulieu, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais réagir parce que la question, elle est fondamentale parce que l'être humain se croit libre parce qu'il ignore les causes qui le déterminent. Et ça veut dire aussi que je pense qu'on peut, en toute bonne foi, se dire, moi, je veux me débarrasser de mes poils et c'est mon choix. Alors qu'en fait, on ne se souvient pas que derrière tout ça, il y a des tas et des tas d'années qui ont précédé avec des moqueries des femmes qui ne s'épilent pas par les garçons. Et que ces moqueries sont aussi des moyens de contrôle social du corps des femmes qui visent à rappeler aux femmes que leur corps, il doit exister aussi ou avant tout pour plaire aux hommes. Et on en arrive à se dire, mais c'est mon choix. Mais est-ce que ce choix est véritablement libre et éclairé quand il a été précédé par des années de moquerie et d'intériorisation ?
Isabelle Gallet, oui, c'est pas forcément mon choix personnel.
Oui, alors, c'est pas forcément mon choix personnel pour certaines patientes. Et je pense, par exemple, je voulais vous donner l'exemple de la moustache des femmes, des jeunes femmes. Elles ont eu effectivement, il y a ce problème de moquerie à l'école. On est de plus en plus confronté à ça. Moi, j'ai des demandes régulièrement des mamans qui rapportent les moqueries de leurs filles à l'école parce qu'elles ont une lèvre supérieure pileuse, poilue, on va dire. Effectivement, il y a forcément une injonction à le faire de la part de la mère, de la part, et puis la jeune fille ne supporte pas ces moqueries. C'est tout à fait, c'est tout à fait normal. Mmh. Bon, là, on est dans un autre sujet. Hein.
Je pense que c'est précisément le sujet, au contraire.
Oui, tout à fait. Mais bon, c'est le problème aussi du harcèlement à l'école. C'est un autre sujet bien plus grave, je pense.
Anne-Marie nous appelle au 01 45 24 7000. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour.
Vous vouliez intervenir, nous vous écoutons.
Oui, j'ai réagi surtout à ce qu'a dit le docteur Gallet, je pense, quand elle a dit que c'était une injonction et que les femmes nous obéissions par rapport aux hommes.
Mmh. D'abord, c'est Milena Younes Linhart qui a dit ça.
Je le fais d'abord pour moi.
Quand vous vous
pour mon esthétique, pour, bien sûr, pour plaire.
D'accord.
En ce qui concerne les jeunes filles, je conçois que moi aussi je l'ai vécu au lycée, mais j'ai toujours employé la crème, je n'ai jamais eu d'épilation autre.
Et aujourd'hui, quelle méthode vous utilisez ?
J'utilise la crème, toujours. J'utilise pour les aisselles, le maillot et les jambes. Et ensuite pour la moustache aussi. Mais ce que je dois vous dire aussi, c'est que je suis blonde et que maintenant aussi mes poils sont blancs. Je suis 79 ans.
Ah, j'allais vous poser cette question que je trouvais indiscrète. Quel âge avez-vous, Anne-Marie ?
79 ans.
79 ans. Eh bien, merci d'avoir appelé Anne-Marie 0145.
Oui. Ce que je fais d'abord, c'est pour moi, à la base. Mais évidemment, c'est pour plaire.
Ah, c'est pour vous et pour plaire, mais pour vous
voilà.
D'abord. Merci, voilà. Merci Anne-Marie de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Baptiste Beaulieu.
Oui, je voulais rebondir. Anne-Marie dit, ce que je fais, c'est avant tout pour plaire, mais est-ce qu'on peut interroger pourquoi dans notre société, alors que les poils, c'est l'histoire naturelle du cycle d'une existence d'un corps humain, il y a la puberté, on a les poils, pourquoi est-ce que, par exemple, l'épilation définitive chez les adultes plaît aux hommes? Pourquoi ce retour vers un sexe prépubère plaît dans notre société? Est-ce que ça devrait interroger du désir des hommes dans notre société et parfois du désir, comment dire, plus que discutable envers des corps qui ne sont pas pubères?
Justement, j'aimerais poser cette question à l'historien de l'Antiquité que vous êtes, Bertrand Lançon. Qu'est-ce que ça signifie, ce goût pour les corps lisses dans notre société d'aujourd'hui?
Bah écoutez, si vous partez des Grecs, ça signifiait la corps lisse, ça signifiait être civilisé, et les Romains ont cherché à montrer que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est très ambivalent. Si on prend par exemple, j'ai surtout étudié moi la pilosité masculine. Si vous prenez la calvitie faisait honte à Jules César. Mmh. Elle a toujours fait honte. On a essayé de dire que finalement, c'était Synésius de Cyrène au 5e siècle que en fait le crâne lisse était celui du philosophe. Depuis une vingtaine d'années. La calvitie est détournée dans la mesure où on assiste à une mode du crâne rasé chez les hommes, la virilité faisant son contrepoids par le port de la barbe. Le chauve à barbe, à la suite de Fabien Barthès en 1998, c'est devenu une mode généralisée. Mais à l'inverse, vous avez les hipsters qui, eux, remettent à l'honneur la barbe fournie et les cheveux plutôt longs, mais passés au gel. Donc, de ce point de vue-là, il y a une forme d'ambivalence aujourd'hui. Mais il y a peut-être une forme, pour ce qui est de la pilosité féminine, une sorte de lolitisme généralisé. Et pour ce qui est des hommes, vous remarquerez que les barbiers sont de retour depuis une quinzaine d'années en France. Et ça veut dire aussi qu'ils obéissent à certaines normes pour eux ou pour séduire.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Milena Younes Linhart, de cette histoire de Bérénice que racontait il y a peu de temps France Culture. C'était en février dernier. Bérénice est figurante à l'Opéra de Strasbourg et elle a joué une pièce avec ses aisselles poilues. On a donc, les spectateurs ont pu voir ses aisselles poilues. Ça a fait un petit scandale et l'Opéra a fini par lui demander d'aller, et lui a même payé d'ailleurs, l'esthéticienne.
Ça, je pense que c'est... Enfin, j'ai pas entendu parler de ça, j'en suis désolée, mais je pense que c'est très intéressant parce que on se rend compte... Enfin, moi, j'ai aussi fait des entretiens avec des enquêtées donc, qui étaient féministes et donc qui politisaient la question de l'épilation et qui a apporté une critique donc par rapport à ça. Et je pense que, justement, au travail, les femmes qui tentent d'arrêter de s'épiler et de montrer leurs poils, c'est un vrai enjeu dans le travail. Et en fait, on voit qu'il y a une réaction importante de la part de la société. Et là, on le voit dans l'exemple que vous avez donné. Il y a vraiment quelque chose d'explicitement, pour l'empêcher de les montrer. Alors que souvent au travail, ça se fait différemment. C'est sous forme beaucoup plus implicite, de petites injonctions qui sont pas forcément formulées de manière aussi explicite. Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que la question du choix personnel des femmes, évidemment qu'il est extrêmement important, qu'il ne faut pas le mettre de côté. Mais par contre, on se rend compte que les choix que font les femmes sont liés à plein d'injonctions sociales et elles font avec. Et évidemment, les femmes qui s'épilent ne sont pas du tout des espèces de choses passives soumises à la norme, pas du tout. Moi, j'ai vu dans mes enquêtes des jeunes filles au lycée qui, au contraire, utilisaient justement les compétences qu'elles ont par rapport au fait de savoir s'épiler, bien savoir épiler les sourcils, savoir épiler à la cire, etc., les jambes, comme aussi un outil pour tenter de renverser des rapports de pouvoir et prendre, par exemple, un peu le pouvoir dans un groupe de avoir cette compétence-là, c'est aussi important. Et par exemple, je voyais des jeunes filles, par exemple, qui, je sais pas, prenaient une pince à épiler pour s'épiler en classe, en première ou en terminale. C'était aussi une manière de tenter de renverser les rapports de pouvoir qui existent avec les professeurs. Moi, j'étais pionne. Et aussi, parfois, me dire à moi, va t'épiler les sourcils, c'était pour tenter de renverser ces rapports de pouvoir-là. Donc en fait, c'est pas du tout aussi simple que ça. Et parfois, s'épiler, c'est aussi dans un système où il y a d'autres rapports de pouvoir qui jouent. Et par rapport à l'exemple que vous avez donné, je pense qu'au travail, c'est très très important, parce que par exemple, moi je connais dans mes entretiens, dans mes enquêtés, il y en avait qui étaient en position de pouvoir au travail, et donc quand elle me disait, quand je suis en position de pouvoir au travail, quand je sais pas, je suis chef d'entreprise, etc., ben, je peux montrer mes poils, parce que personne va m'embêter, mais justement, cette même enquêtée me disait, en fait, j'ai perdu mon taf et je me suis retrouvée dans un travail où j'étais en position complètement subordonnée. Et là, je pouvais plus les montrer, j'avais plus cette possibilité-là. Donc, on voit aussi que pouvoir montrer ou pas ses poils, ça dépend du contexte social et de la position de pouvoir dans laquelle sont ces jeunes femmes.
Sur franceinter.fr, ces messages que nous recevons, Aline nous dit, mais jusqu'où va l'intellectualisation de tout et n'importe quoi? Quel problème de riche? Je suis une femme, je n'ai jamais reçu d'injonction de qui que ce soit et je me suis toujours épilé pour moi d'abord, un choix purement esthétique réglé par l'utilisation d'un épilédic que j'utilise tous les 10-15 jours depuis des années en un quart d'heure. Et quand je le souhaite, je dois investir 40 euros tous les 3-4 ans. Quel est le problème? Et puis cet autre message de Aïsa qui nous dit « Bonjour, merci pour votre émission. Pour ma part féministe, j'aimerais accepter complètement ma pilosité, mais ce n'est pas si simple. Je trouve sur moi plus jolie la police et pour être honnête, la plupart du temps, chez les autres aussi, hommes et femmes, je suis hétéro et trouve un mec sans poils, sans poils particulièrement séduisant. Bonne journée », nous dit Alicia. Bah merci Alicia, vous aussi. 10h38-39 maintenant sur France Inter. C'est l'heure de retrouver la chronique du doc barbu de Grand Bien Vous Fasse. C'est Baptiste Beaulieu.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Et ce matin, Baptiste, vous parlez sexisme et corps des femmes.
Oui, Thomas, vous savez, les auditeurs commencent à me connaître un petit peu. Ils savent que j'essaie, ici, dans mes romans, sur Instagram, à ma manière, d'attirer l'attention sur les violences médicales et particulièrement les violences gynécologiques. Et je crois fermement que les patientes méritent mieux. Et que nous, les médecins, nous sommes capables d'être un jour la meilleure version du soignant qu'on espérait tous et toutes devenir en commençant nos études. Et cela passe, je pense, par s'interroger sur la façon dont la société considère politiquement le corps des femmes. Je vous donne un exemple, Thomas. L'été dernier, à Disneyland, une jeune Australienne a été réprimandée par des vigiles parce qu'elle était en train d'allaiter son bébé dans le parc. Ils lui ont demandé d'aller, je cite, « dans les salles dédiées, car cela pouvait éventuellement choquer certains visiteurs étrangers ». Tout le monde s'offusque à ce moment-là, et à juste titre, de la réaction de ces vigiles, y compris au sein du gouvernement, où on tergiverse même sur l'idée de créer un délit d'entrave à l'allaitement. Que l'allaitement soit encore tabou en 2021, c'est ridicule. Mais on ne peut pas d'un côté générer des injonctions à l'allaitement, quoi, tu es une maman et tu n'allaites pas ton enfant, et en même temps dire qu'une femme qui allaite, c'est impudique. Décidez-vous. Posons-nous une question là maintenant tout de suite. Qu'est-ce qui rend littéralement ce genre de fait divers possible? Tous ces gens qui s'agitent en serrant les poings, en tapant fort sur la table et en moulinant leurs petits bras en tous sens,
Ils oublient un détail. Si ces vigiles ont eu en eux assez d'assurance pour s'approcher de cette femme et lui demander de se couvrir, c'est parce qu'ils se sont sentis autorisés à le faire. Et pire même, en droit de le faire. J'entends par là qu'on peut pas d'un côté pousser des cris « Mon Dieu, c'est insupportable ce qui s'est passé » et en même temps passer ses journées à courir les plateaux médiatiques pour chosifier politiquement les femmes, c'est-à-dire transformer en objet de débat et rendre l'idée même d'un tel débat légitime à la fois le corps féminin et la manière dont elles peuvent ou doivent s'habiller. J'en veux pour preuve la vidéo de la semaine dernière où Éric Zemmour demande à une femme voilée de se dévoiler. Quelle séquence ! Imaginerait-on une femme politique arrêter un passant et exiger de lui qu'il se soumette à ce qu'elle lui demande pour précisément montrer qu'il n'est pas un homme soumis. Faites ce que je vous dis de faire pour montrer que vous êtes capable d'autodétermination. Ça n'a aucun sens. Bref, un coup c'est le voile, un coup c'est le burkini, un coup c'est le crop top, un coup ce sont les poils des aisselles, un coup ce sont les jupes dans les lycées, etc. Il n'y a jamais tous ces débats autour du corps masculin et des vêtements masculins. Et penser que cette différence de traitement médiatique des corps masculins et féminins serait sans conséquence est une erreur. Les féministes le disent et le redisent depuis des années. On n'a plus le droit de faire semblant de découvrir que nos débats sur les femmes et leur corps, eh bien, ça se traduit dans l'inconscient collectif par des hommes qui se pensent légitimes à discerner la pudeur de l'impudeur. Des hommes qui pensent que, en vrai, si on parle de leur corps et de la manière dont elles devraient se vêtir sur les plateaux télé, alors moi, Jean-Michel, je suis légitime à le faire dans d'autres situations de la vie quotidienne. Tous ces débats, ce sont des blancs-seins, offerts aux hommes qui pensent que c'est ok de dire à une femme comment elle doit s'habiller, ce qu'elle doit faire, comment le faire et à quel moment le faire. Sans doute que j'extrapole et qu'on pourrait croire. Et qu'on pourrait croire qu'il n'y a pas de rapport entre un médecin qui fait pleurer une patiente parce qu'il a considéré son corps comme un simple morceau de viande à examiner, entre la séquence de dévoilement de la semaine dernière ou ce qui s'est passé à Disneyland cet été. Mais rien ne n'est de rien, Thomas, et tout est politique.
Merci, Baptiste Beaulieu. Alors voilà, votre chronique est à retrouver sur le site de France Inter, à la page « Grand bien vous fasse ». On s'intéresse au poil ce matin et à ce qu'il raconte de nous, de notre rapport au corps, le corps des femmes comme le corps des hommes, Baptiste. Et on attend toujours vos réactions sur l'appli ou au 01 45 24 7000. Il est 10h43 et vous êtes bien sur France Inter.
Quand l'amour s'en vient comme un torrent, en mon cœur prisonnier du courant, je voudrais chanter l'amour trouvé. Que fais-tu, amour, sur le palier? Qu'en sais-tu, amour? Je suis trempé. Je voudrais chanter l'amour trouvé. Fini battlefield, ouhou. Fini battlefield, ouhou. Fini battlefield, revoilà la vie, ouhou. Jouir d'un bonheur entre tes bras, sentir ton odeur autour de moi, au miroir du cœur, amour en moi.
Retour de Jean-Louis Murat et cette chanson Battlefield, vous pouvez retrouver toute la programmation musicale sur le site de France Inter.
À Avec les poils, ça te fait pas trop chaud.
France Inter.
J'ai pas de poils, tu sais.
T'as pas de poils.
Non. Grand bien vous fasse.
J'ai juste ce qu'il faut ici.
Thomas Chauvineau.
On s'intéresse donc aux poils, comme vous l'avez compris aujourd'hui dans Grand bien vous fasse, avec Isabelle Gallet qui est dermatologue, Bertrand Lançon qui est historien, Milena Younes Linhart qui est doctorante, et puis Baptiste Beaulieu qui est resté, qui nous fait l'amitié de rester avec vous. Et puis ces messages qui nous arrivent sur franceinter.fr, sur Facebook aussi. Adèle nous dit « Je ne me suis jamais épilée, je ne m'épilerai jamais. Je trouve que c'est une obéissance à des normes sociales ridicules. Mon corps me plaît comme ça. Quant à s'épiler complètement, je trouve que c'est pour plaire à des hommes qui régressent. » Et cet autre message de Gaëlle qui nous dit « Je suis étonnée de voir que l'épilation intégrale du maillot soit tant à la mode, surtout pour le côté douloureux. Et je me pose aussi une question, est-ce sain de s'épiler intégralement le pubis ?» C'est une question que se pose également Véronique qui nous a envoyé cette note vocale.
Ben, j'ai une petite question. Je pensais que les poils du pubis préservaient contre les maladies infectieuses.
Isabelle Gallet, vous qui êtes dermatologue, cette question autour de l'épilation du pubis revient beaucoup au standard. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors, déjà, pour, je voulais intervenir sur le lolitisme dont a parlé notre historien tout à l'heure. Ce que je constate, c'est que beaucoup d'hommes également demandent une épilation intégrale. Donc, je pense que s'il y a une injonction, c'est plutôt une injection sociétale, plus qu'autre chose, plus qu'une injonction de la part des hommes, ou peut-être une injonction de la part des femmes aussi, hein, pour rejoindre votre intervention du médecin tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors il y a certainement un bien-être dans l'acte sexuel. Bon, c'est voilà. Alors pour parler
pour répondre aux questions et pratiques des auditeurs et auditrices.
Aux questions pratiques. Alors en effet, il y a certaines femmes qui ne veulent pas s'épiler, qui refusent et qui peut-être s'épilaient jusque là, qui ne veulent plus s'épiler. Il y a une espèce de mouvement qui va avec le mouvement MeToo, etc. Plutôt chez la femme d'une quarantaine d'années, etc. qui veut retrouver ses poils, qui n'a jamais fait d'épilation définitive et qui assume sa pilosité. Ça, c'est un mouvement aussi qui évolue un petit peu en sens inverse, finalement, du mouvement de la
Mais
volonté.
Quel est le rôle des poils du pubis ?
Le rôle des poils du pubis, c'est effectivement, il y a un rôle de protection certainement pour certaines femmes qui ont les muqueuses extrêmement sensibles, hein, c'est possible, qui dans ce cas ne demanderaient pas d'épilation définitive, puisque avant l'épilation définitive, il y a quand même les épilations avant au rasoir, etc. Donc elles ont pu quand même tester déjà l'épilation intégrale et savent qu'elles peuvent la tolérer. Hein. Voilà. Bon, tout de suite après une séance d'épilation laser, évidemment, il ne faut pas mettre de vêtements serrés, etc. Il y a une petite inflammation. Mais après, la peau reprend ses droits, si je peux dire. La peau, on n'épile pas la muqueuse, bien sûr. La muqueuse n'est pas touchée par le laser. Ce sont les zones cutanées.
Et en général, quand la peau reprend ses droits, elle le fait sentir, ça gratte un petit peu.
Quand je dis la peau reprend ses droits, c'est-à-dire que la peau se reconstitue complètement après, une fois les séances terminées, et la peau supporte les vêtements, supporte. Il n'y a jamais eu en fait de récrimination par rapport aux suites des épilations laser.
Je lisais Isabelle Gallet.
À l'inverse, excusez-moi, parce que je trouve que c'est important. À l'inverse, lorsqu'on examine un patient, une patiente avant de passer à l'épilation définitive. Généralement, ce sont des gens qui viennent raser. Et il y a un examen dermatologique très important, hein, des zones génitales. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de repérer des MST qui pouvaient passer inaperçus quand il y avait les poils, éventuellement. C'est-à-dire qu'il y a quand même les fameux condylomes qui sont de plus en plus répandus, et je ne pense pas que les condylomes puissent être puissent se développer en raison de l'épilation laser. Quand on voit des condylomes, on doit les traiter, et les condylomes sont parfois discrets, ça peut être simplement des petites taches, et nous, dermatologues, nous les repérons. Nous repérons aussi, bien sûr, d'autres types de lésions virales qui sont des molluscum contagiosum très très fréquents. Et bien sûr,
pendant les examens, évidemment. Est-ce que vous pensez, Milena Younes-Linhart, qu'on est quand même avec une pratique en train de changer? J'en veux pour preuve un récent sondage effectué par l'IFOP qui disait que la pratique de ce qu'on appelle le no-shave, alors c'est-à-dire plus s'épiler du tout, avait doublé en 8 ans, passant de 15% pour les femmes en 2013 à 28% aujourd'hui en 2021. Vous évoquiez tout à l'heure ces mannequins qu'on peut voir avec les bras poilus, les jambes poilues pour une publicité pour une marque de chaussures. C'est quand même signe qu'il y a un changement, non ?
Je pense, en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que, en tout cas en France, le mouvement MeToo a eu un impact là-dessus, sur une possibilité de critique de toutes ces normes de corps qui participent à construire des corps normés pour l'hétérosexualité, en pensant l'hétérosexualité comme un lieu de construction de rapports inégalitaires. Et c'est pour ça que c'est important, par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, de pas penser l'épilation comme une pratique en soi, mais toujours comme un rôle, comme un outil social, et qui est lié toujours à des contextes, notamment l'intimité. Donc en effet, je pense qu'avec MeToo, il y a eu une critique féministe médiatisée. Mais par contre, il faut pas, et moi je pense que arrêter de s'épiler n'est pas possible en dehors d'une idéologie féministe qui permet de penser une critique du patriarcat, parce que les injonctions ont produit une intériorisation tellement forte, et qui ont produit aussi du dégoût par rapport à son propre corps, que si les femmes ne réfléchissent pas en termes de critique féministe, elles peuvent pas réussir à arrêter de s'épiler.
Mais comme le disent certaines auditrices, on peut aussi le faire uniquement pour soi.
Total. Mais moi je pense que justement c'est très intéressant de voir aussi qu'il y a des femmes, par exemple, qui deviennent lesbiennes et qui continuent, et qui, par exemple, s'épilent de temps en temps parce que pour elles, ça n'a plus le même sens, mais parce que elles ne sont pas dans l'hétérosexualité et dans ces rapports intimes où il y a un continuum de violence qui existe. Et juste pour ajouter une petite chose, il y avait une personne qui était intervenue en disant c'est difficile d'arrêter. Je pense que moi, j'ai plein d'enquêtés pour qui elles essayent d'arrêter, mais elles n'y arrivent pas complètement parce qu'elles continuent à trouver ça dégueu. Et donc mais on voit que c'est aussi une charge mentale en permanence, comme ça l'était, en fait, pour les femmes qui commencent à s'épiler dès très jeunes.
Isabelle nous appelle au 01 45 24 7000 du Tarn. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour. Alors moi, je voulais apporter un témoignage. Ma fille a 19 ans. Depuis à peu près 2 ans, elle a arrêté de s'épiler les jambes parce qu'elle trouvait que c'était trop contraignant et pas du tout pression féministe, pas du tout. C'est un choix qu'elle a assumé sans pression.
Elle avait donc quel âge, 18 ans à ce moment-là, ou elle était plus jeune encore?
Elle avait 17 ans, elle a dû prendre la décision de ne plus aller chez l'esthéticienne pour se faire épiler. Elle est brune, elle a une pilosité très importante, donc sur les jambes, ça se voit énormément, qu'elle ne se rase plus du tout, qu'elle ne s'épile plus du tout. Mais pour autant, c'est une jeune fille qui est toute fine, qui est restée très coquette, qui met des petites jupes courtes, qui a un compagnon, et elle l'assume complètement. C'est vrai que même moi, au début, ça me choquait un peu, mais c'est un choix qu'elle a fait, et ça ne la gêne pas du tout.
C'est amusant ce que vous dites. Au début, ça me choquait un peu.
Oui, c'est vrai, parce que la norme, parce que je sais que à cet âge-là, on essaie de faire comme tout le monde. Mais bon, comme c'était son choix, elle ne s'épile plus du tout les jambes. Alors elle continue à s'épiler les aisselles, mais pas les jambes.
Eh bien, merci Isabelle pour votre témoignage, et saluez de notre part votre fille. 01 45 24 7000. Vous vouliez intervenir, Baptiste?
Oui, c'est marrant parce que ce témoignage, on s'aperçoit que il y a quand même comme une forme de volonté de réassurance ou de justification, dans le sens où oui, elle s'épile, mais elle a quand même un compagnon, et oui, elle s'épile, mais elle est restée coquette, c'est-à-dire féminine. Et en fait, on n'a pas besoin de savoir qu'elle a toujours un compagnon ou qu'elle est restée féminine. On c'est juste qu'elle veut pas s'épiler, c'est son choix et ça devrait suffire en soi.
Ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire aussi, je me tourne vers vous Bertrand Lançon, c'est que l'imagerie change et joue beaucoup et vous racontez dans votre livre qu'au départ, par exemple Jésus, qu'on voit tous barbu, n'était absolument pas représenté comme un gars barbu.
Oui, absolument. Lors des trois premiers siècles de notre ère, voire les quatre, Jésus était représenté sous forme d'un Apollon, c'est-à-dire les joues lisses et une chevelure bouclée. Et le Christ barbu tel qu'il a triomphé dans l'iconographie orientale et occidentale, c'est une création du VIe siècle. On peut difficilement le voir avant. Et en fait, il a été dessiné de la sorte pour cadrer avec l'imagerie des moines syriens. Jésus barbu, en fait, c'est l'image du moine syrien du 5e et du 6e siècle. Donc ça a été vraiment une... c'est parce que le moine, lui, laissait pousser sa barbe, et le moine orthodoxe aussi laisse pousser ses cheveux. Et on a fait de Jésus un moine, en quelque sorte.
Mais il était glabre, enfin ses représentations, en tout cas, étaient celles d'un homme glabre auparavant.
Auparavant, oui, tout à fait. Mmh. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, une chose qui me frappe, c'est la dissymétrie qui existe entre hommes et femmes par rapport à la pilosité. Je veux dire par là que la pilosité est quelque chose qui pose problème pour les femmes, alors que pour les hommes, c'est beaucoup plus anecdotique. Et d'autre part, c'est tout le corps de la femme qui se trouve engagé, alors que chez l'homme, finalement, la question de la pilosité concerne presque exclusivement la tête. C'est-à-dire les sourcils, la barbe, éventuellement les poils des narines ou des oreilles. Mais regardez le cas qu'on a fait pour les hommes politiques, c'était les sourcils de François Fillon ou les problèmes de couleur de barbe d'Édouard Philippe. Ça en reste là, alors que pour les femmes, c'est un problème beaucoup plus profond et effectivement une question sociétale qui a trait à ce que doit ou ce que veut être la femme.
Ça commence aussi un peu à changer, puisque de plus en plus de jeunes hommes souhaitent se faire épiler le torse comme les parties plus intimes. Eh ben, merci d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui dans Grand Bien Vous Fasse, qui plus est en ce jour férié. Cette émission peut se réécouter quand vous voulez, où vous voulez, sur franceinter.fr et sur la plupart des plateformes de podcast. On se retrouve demain, 2 novembre, jour des morts. On s'intéressera à cette question: comment entretenir le souvenir des disparus en France, mais aussi à l'étranger. Et on attend déjà vos témoignages sur l'appli de France Inter.